Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Julie Delabrosse, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Aliette Ovin. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Alice Eyed.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
L'actualité écho, décryptée par des acteurs et des chercheurs, c'est chaque vendredi à 14h dans Entendez-vous l'écho sur France Culture. Aujourd'hui, cap sur les États-Unis, 4 jours avant les élections de mi-mandat. La santé florissante de l'économie américaine va-t-elle profiter à Donald Trump ? Malgré les récents revirements de la bourse de New York, les États-Unis affichent toujours une forte croissance et un chômage au plus bas depuis 50 ans. Pour autant, ces bons résultats suffiront-ils à empêcher une vague démocrate à la Chambre des représentants ? Cette euphorie économique peut-elle durer ? Et à qui profite-t-elle vraiment ? Voilà les questions qui vont nous occuper aujourd'hui. Il est 14h sur France Culture et on perçoit déjà l'écho de l'Amérique. Nous allons parler des ambivalences de l'économie américaine en compagnie de 3 invités. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Aujourd'hui, Patrick Artus s'attaque à un classique de la littérature économique, Capitalisme et liberté, de Milton Friedman. Trois invités autour de la table, donc, que je remercie d'être présents. Et d'abord, Romain Huret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, directeur d'études à l'EHESS et vous avez écrit « La fin de la pauvreté », point d'interrogation, publié il y a quelques années aux éditions de l'EHESS. À vos côtés, Sébastien Jean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale, qui vient de publier son ouvrage annuel « L'économie mondiale en 2019 ». Et enfin, Annick Cizel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheuse à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, spécialiste de politique étrangère américaine.
Nous sommes en passe d'atteindre la meilleure croissance moyenne annuelle en plus de 13 ans. Le déficit commercial, qui me tient à cœur car nous avons été arnaqués par le monde entier, a baissé de plus de 50 millions de dollars. Nous avons créé 3,7 millions d'emplois depuis l'élection. Nous sommes dans la plus longue série de créations d'emplois de l'histoire. 3,5 millions d'Américains ont quitté le programme de coupons alimentaires du jamais vu depuis des décennies. Le chômage a atteint son plus bas niveau en presque un demi-siècle.
Donald Trump égrenant ses réussites économiques, ou du moins ce qu'il considère comme tel, en juillet dernier. Les États-Unis devraient finir l'année 2018 avec une croissance de 3% du PIB, contre 2,2% l'an dernier et 1,6% en 2016. Alors jusqu'à quel point cette performance peut-elle être mise au crédit du président américain, Sébastien Jean ?
À l'entendre, c'est évidemment la marque de son succès. Hein. En tout cas, tant que les chiffres montent, il a vraiment pris l'habitude de présenter les résultats de la bourse et de l'économie comme ses succès. Maintenant, évidemment, quand on regarde avec un peu de recul la trajectoire de l'économie américaine, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le prolongement d'une trajectoire de récupération après le choc terrible qu'a été la crise de 2008-2009, qui s'est traduite dans cette économie qui est assez flexible, hein, qui n'a pas du tout le même comportement de l'économie française, avec un marché du travail notamment qui évolue beaucoup plus rapidement, qui s'est traduit par une montée très brutale du chômage, une baisse de l'activité, parce qu'aux États-Unis c'est pas seulement une question de chômage, il y a aussi des gens qui sortent, qui deviennent inactifs, disons, qui renoncent à chercher un travail. Et puis, très brutal en 2009-2010, et puis depuis, une baisse régulière du taux de chômage, donc une récupération de l'économie américaine, qui a été très longue. Et donc, en fait, cette récupération, elle a commencé quand on essaie de mesurer les cycles. Hein, on date le début de ce cycle de croissance de l'été 2009, hein, donc plus de 9 ans aujourd'hui. C'est la deuxième plus longue phase de croissance de l'économie américaine depuis qu'on mesure, enfin en gros depuis la fin du 19e. Donc c'est très long. Alors c'est vraiment le prolongement. Donc évidemment, ça fait sourire de voir Donald Trump s'attribuer les mérites de cette phase-là.
Alors il y a tout de même une partie qui est attribuable à Donald Trump, et notamment la baisse des impôts sur les sociétés et sur les ménages, conjuguée à une hausse de la dépense publique, Sébastien Jean. C'est ce qui a permis de booster la croissance ?
Absolument. Bon, on ne sait pas ce qu'aurait été la trajectoire de l'économie si Donald Trump n'avait pas été élu. Est-ce que cette trajectoire aurait été poursuivie, cette trajectoire de croissance ? Est-ce qu'elle se serait poursuivie ? D'autant qu'en 2016, il y a eu un peu un trou d'air dans l'économie américaine. Donc on s'est demandé si cette phase de croissance n'arrivait pas à son terme. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Notamment une très forte remontée de la bourse. Hein, depuis, dans les 15 mois qui ont suivi l'élection de Donald Trump, les cours de bourse ont augmenté de presque 40%. Hein, ils ont un petit peu baissé depuis, mais on reste sur une augmentation d'un tiers sur son mandat. Une réaccélération de la croissance. Et si on regarde la politique économique de Trump, qu'est-ce qui est notable vraiment dans ce qu'il a fait? C'est essentiellement, pour l'instant, la politique budgétaire et fiscale, c'est-à-dire d'une part une augmentation des dépenses, très forte augmentation des dépenses militaires en particulier, d'autre part, la seule grande loi qu'il est passée au Congrès jusqu'à présent, c'est la réforme fiscale qui a été votée en décembre dernier, qui correspond à une baisse des recettes fiscales de l'impôt de l'État américain, toutes choses égales par ailleurs, de 1500 milliards sur une décennie. Non. L'impulsion, enfin, c'est un coup d'accélérateur, un peu de dopage à la croissance. Ça représente un peu moins d'un point de PIB pour l'année en cours. Donc, c'est quand même une stimulation, très puissante. On va y revenir certainement, mais dont on peut s'interroger sur son opportunité, parce que est-ce qu'il faut accélérer quand l'économie va déjà bien, quand on est déjà en train de se demander est-ce qu'on n'est pas un peu en surchauffe, c'est vraiment la question que ça pose aujourd'hui.
On va voir si cette croissance en effet est artificiellement dopée ou non, mais d'abord à côté de ces chiffres, il faut voir peut-être Romain Huret, à qui profite véritablement cette croissance, et est-ce qu'elle ne cache pas un nouveau creusement des inégalités? On connaît évidemment les travaux de Piketty sur cette question.
À qui elle profite? Elle profite aux classes moyennes supérieres et aux élites économiques détentrices d'un capital économique extrêmement fort. Hein. Il ne faut pas oublier qu'elles ont voté Trump. On a souvent trop tendance à présenter Trump comme le candidat des classes populaires blanches en crise actuellement, mais il ne faut pas oublier que beaucoup de détenteurs du capital économique dans le pays, de classes moyennes supérieures, ont voté Trump et adhèrent pleinement à ce programme massif de réduction d'impôts. Sur la question des inégalités, vous avez évoqué le livre de Thomas Piketty, il date de 2014, donc Trump, en quelque sorte, est à l'extérieur, sa présidence n'a sans doute rien à voir.
Rappel, simplement, Piketty disait que la croissance avait profité à tous les Américains entre 1946 et 1980, mais que les revenus de la moitié des Américains les plus pauvres n'avaient pas augmenté du tout entre 1980 et 2014. Je vous laisse poursuivre.
Oui, tout à fait. Hein, Piketty a parfaitement raison. Hein, on voit bien cet âge d'or où on a eu une redistribution un peu plus forte jusqu'aux années 70. Et depuis cette période, on est dans une phase où la redistribution est beaucoup plus compliquée et profite beaucoup aux électeurs du Parti républicain et aux électeurs de Trump. Ceci étant dit, on a vu récemment un rapport publié sur les très très grosses fortunes aux États-Unis qui montre que nous avons atteint des sommets jamais atteints dans toute l'histoire du pays, où les plus grandes fortunes et les plus anciennes accumule un capital tout à fait exceptionnel.
Alors, autre bonne nouvelle pour Donald Trump, vous l'avez mentionné, Sébastien Jean, aux États-Unis, le chômage est au plus bas depuis 40 ans. Il se situe au-dessous de 4%. Mais alors, est-ce que ces chiffres ne masquent pas une réalité plus complexe? On est vraiment au plein emploi à l'heure actuelle aux États-Unis?
La réalité est évidemment plus complexe et d'ailleurs ça fait partie des sources de perplexité auxquelles la Banque fédérale, la Fed, fait face et ils le reconnaissent en tant que tel. C'est-à-dire que quand il y a une tendance depuis le début du siècle aux États-Unis à une baisse de l'activité, donc à avoir des gens qui sortent du marché du travail. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au moment de la crise, on a une forte augmentation du chômage et en même temps une baisse du taux d'activité. Donc le taux de chômage, il était à ce moment-là, je me rappelle plus exactement des chiffres, mais il est monté au-dessus de 10%. Aujourd'hui, donc, il est à 3,7% d'après les derniers chiffres. Mais évidemment, la question, elle est plus largement, est-ce qu'on a réussi à faire revenir sur le marché du travail les gens qui en étaient sortis? Et là, la question est un peu plus complexe. La réponse, elle tient quand même dans ce qu'on appelle le taux d'activité. Hein. Combien de gens ont un travail par rapport à l'ensemble de la population en âge de travailler? Et aujourd'hui, on est revenu à peu près au niveau de 2007, hein, c'est-à-dire à un taux moyen d'environ 60%.
Et en même temps, il y a eu un certain nombre de tensions sur le marché de l'emploi, ce qui a obligé les entreprises à augmenter légèrement les salaires.
Absolument.
On cite souvent l'exemple de Walmart qui a fait passer donc son salaire minimum de 9 à 11 dollars de l'heure. Mais alors, est-ce que cette hausse est jugée suffisante pour entraîner une appréciation positive de la politique économique de Donald Trump, Sébastien Jean?
Vous avez tout à fait raison. C'est l'autre dimension par laquelle on peut appréhender ce problème. C'est-à-dire qu'on a eu une perplexité des dernières années en voyant que que le taux de chômage était très faible et pourtant les salaires n'augmentaient pas, hein, contrairement à ce qu'on avait l'habitude d'observer, c'est la relation qu'on décrit par la courbe de Phillips. Ce qu'on est en train d'observer là, notamment depuis un an, c'est quand même que les salaires commencent à répondre plus nettement. Et donc c'est relativement récent, ça laisse penser qu'effectivement on arrive à un état du marché du travail où il y a une certaine tension, disons, tension, quand on parle de tension ça veut dire que les entreprises parfois peinent à trouver les travailleurs qui souhaiteraient embaucher et donc ça crée une accélération des salaires, c'est ce qu'on a vraiment effectivement observé ces derniers temps, des augmentations de salaires qui sont de l'ordre de 3%, alors ça varie mais avec une inflation qui est autour de 2%, ça veut dire qu'il y a véritablement des gains de pouvoir d'achat, y compris pour les classes les plus modestes en ce moment, d'ailleurs, hein, pour les travailleurs non qualifiés. Vous avez cité l'exemple de Walmart. Et effectivement, c'est tout ça, ça concerne des gens qui sont non qualifiés. Donc là, il y a un bénéfice que je pense un certain nombre d'Américains, y compris modestes, touchent du doigt aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils soient liés à Trump, enfin, qu'on fait la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Mais on arrive au moment où, enfin, les salaires reprennent. Je dis enfin parce que à cause de cette perplexité que je décrivais à l'instant.
Alors le manque de main-d'œuvre à l'avenir pourrait entraîner un ralentissement de la croissance. Toute la question aujourd'hui, c'est de savoir si cette croissance économique va durer à ce rythme. Annick Cizel, selon vous, la politique économique de Donald Trump est-elle une politique de court terme ? Est-ce qu'on peut la qualifier comme cela ? Le FMI, par exemple, dit qu'il y aura, il devrait y avoir un ralentissement dès 2020 de cette croissance.
Alors on peut s'attendre à au moins un facteur de ralentissement qui va être l'effet boomerang du protectionnisme, des mesures protectionnistes qui pour l'instant recréent peut-être ou ramènent peut-être sur le territoire américain un certain nombre d'emplois, mais qui à terme, je pense à la Chine ici et aux mesures de vengeance de la Chine, les mesures protectionnistes de la Chine qui ciblent d'ailleurs à quelques jours de ces élections de mi-mandat des états clés, des états où des rivalités républicaines démocrates majeures se tiennent. Donc il va y avoir à un moment ou à un autre, je regarde à ma gauche Sébastien Jean, mais je pense que les économistes sont assez d'accord là-dessus, qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir un effet boomerang sur l'économie américaine globale. Mais je voulais juste sur l'idée d'une continuité, par contre, à long terme, d'une continuité terriblement paradoxale entre Obama et Donald Trump, attirer l'attention de nos auditeurs une seconde sur le secteur énergétique. Et sur la complémentarité très très paradoxale, très ironique entre les deux types d'administration, alors que l'administration Trump dérégule l'environnement et a donc relancé pleinement les anciennes énergies, le charbon notamment, veut absolument que les États-Unis demeurent le premier exportateur mondial de pétrole, quels qu'en soient les coûts environnementaux. Je pense à un État comme le Texas qui se porte très très bien économiquement actuellement. Idem pour le gaz de schiste, le Colorado est également dans les États qui gagnent énormément en produits intérieurs bruts à l'intérieur de l'État fédéré actuellement. Et dans le même temps, ce boom énergétique est possible aussi grâce au secteur privé qui avait été totalement relancé, qui créait énormément d'emplois déjà dans les dernières années d'Obama grâce à la transition énergétique, grâce à cette économie verte qu'Obama avait mise comme fer de lance de sa politique. Sauf que les multinationales américaines continuent à créer des emplois verts malgré la politique publique du président Trump qui revient vers les vieilles énergies et les énergies non renouvelables. Donc la cohabitation de deux schémas qui sont antagonistes a priori permet effectivement un boom économique pour des raisons totalement divergentes, mais permet un boom conjoint et probablement à plus long terme effectivement.
Énergie verte qui ont en effet perdu beaucoup d'investissements de la part de l'État. Alors dans quelle mesure, Sébastien Jean, cette économie américaine est pénalisée par la guerre commerciale menée contre la Chine au troisième trimestre? Les exportations américaines ont été pénalisées par les représailles chinoises sur le soja notamment?
Pour l'instant, à mon sens, l'impact au niveau macroéconomique est très limité et très peu perceptible. Pourquoi ? D'abord parce que le conflit avec la Chine, il est récent dans la mise en place des mesures. Les premières mesures contre la Chine ont été mises en place le 6 juillet, les représailles chinoises au même moment. C'était seulement sur 34 milliards de dollars d'importations américaines, après fin août, ensuite fin septembre. Donc, je veux dire, tout ça est très récent. Vous avez raison de parler du soja, parce que l'impact le plus immédiat, c'est sur les agriculteurs. Parce qu'il y a eu les représailles des autres pays. Là, pour le coup, le protectionnisme américain sur l'acier et l'aluminium est un peu plus ancien. Les mesures, elles ont commencé à être mises en œuvre fin mars. Les représailles également. Et donc, ça a déjà eu le temps de se faire sentir l'impact sur les exportations de soja. Or, l'agriculture américaine est très exportatrice. Sur des grandes cultures comme ça, on est entre 40 et 60% de la production qui est exportée, à peu près la moitié pour le soja.
Ce qui explique que Trump ait fait voter 12 milliards de dollars d'aide aux agriculteurs pénalisés par la guerre commerciale, voilà, parce que ce sont ses électeurs en grande
absolument.
Partie.
Absolument. Et il a fait deux choses. Il a notamment voté ses subventions directes, donc 12 milliards, c'est quand même considérable. Et par ailleurs, il a assoupli les conditions relative à l'incorporation d'éthanol dans le carburant, et c'est aussi une façon de donner des débouchés supplémentaires aux grandes cultures et donc d'essayer de soutenir le revenu des agriculteurs, parce qu'il sait qu'il s'agit d'une clientèle électorale importante pour lui et très exposée.
Alors toujours sur cette idée des premiers signes d'affaiblissement peut-être de cette croissance économique aux États-Unis, la bourse de New York a connu des séances tumultueuses en octobre après des mois d'euphorie. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le Nasdaq avait bondi de plus d'un tiers depuis l'élection de Donald Trump. Est-ce que c'est le signe que l'inquiétude commence à se répandre? Comment est-ce que vous expliqueriez ces revers boursiers, Sébastien Jean?
Moi, je n'irai pas jusqu'à attribuer directement cause de ces fluctuations à la guerre commerciale. On voit que ça compte beaucoup. C'est devenu un facteur très important dans les fluctuations boursières. D'ailleurs, hier ou avant-hier, je ne sais plus, Donald Trump a parlé au téléphone avec Xi Jinping. Il s'est répandu ensuite dans les tweets pour expliquer qu'ils avaient une très bonne conversation, avec notamment une grande partie de la conversation sur le commerce, et que, donc en gros, pour ne rien dire, sauf qu'ils voulaient envoyer un signal positif. Réaction des marchés immédiatement à la hausse. Retour de, disons, baisse de l'inquiétude autour des tensions commerciales. Donc ça prouve que c'est devenu quelque chose, un des éléments qui sous-tend l'équilibre du marché aujourd'hui. Maintenant, il faut aussi observer le fait qu'on reste à un niveau de valorisation boursière extrêmement élevé par les références historiques. Quand on compare les valorisations boursières la profitabilité des entreprises, quand on prend un peu de recul, on voit que c'est un niveau de valorisation qui n'a été dépassé qu'une seule fois au moment de la bulle d'Internet. Et donc tout ça, ça ne s'est pas écroulé. Il y a eu une baisse au mois d'octobre, mais finalement, si on s'en tient là, ce qui n'est pas du tout certain, si on s'en tient là, c'est-à-dire 7-8% de baisse, c'est une correction, c'est plutôt pas mauvais pour le marché. Donc il y a une fragilité, je dirais, c'est plus des points d'interrogation aujourd'hui que véritablement un coup de semonce. L'autre point d'interrogation, c'est l'impact sur l'inflation, parce que on a parlé de la Fed
tout à l'heure. Une inflation qui est maîtrisée pour le moment.
L'inflation est maîtrisée, mais c'était ce qui est bon. Jérôme Powell, le nouveau président de la Fed, l'a bien dit lors d'une intervention fin août dans une conférence. Le fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui qui entourent les données fondamentales du pilotage de l'économie américaine. Et en gros, son message, c'était de dire, écoutez, on a du mal à vraiment identifier les fondamentaux. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'inflation, et tant qu'elle ne monte pas vraiment, eh ben, on ne va pas accélérer notre trajectoire de resserrement, de hausse des taux d'intérêt.
Alors il y a quand même une hausse qui est prévue pour décembre. Ce sera la quatrième hausse prévue depuis le début de l'année. Et on a vu, Romain Huret, Donald Trump s'élever contre ces différentes hausses. Qu'est-ce que ça nous dit de ce rapport de force qui est en train de s'instaurer entre la Réserve fédérale et Donald Trump?
Je crois que Donald Trump adore être placé dans cette position du négociateur. Il ne faut pas oublier qu'il a fait campagne sur sa capacité à être un homme d'affaires extraordinaire. Et j'utilise ces mots et les vocables qu'il utilise pour se désigner lui-même. Et donc, il a toujours dit, voilà, moi, président, je serai capable de négocier comme personne ne l'a jamais fait, avec la Fed, avec les Chinois, avec les partenaires européens. Et j'obtiendrai ce qu'aucun président n'a obtenu jusqu'alors, à savoir une renégociation des droits de douane avec le monde extérieur, une amélioration de la vie quotidienne des Américains. Et je pense que c'est sa marque de fabrique la plus importante, et ce qui explique une partie du maintien de sa base électorale en dépit de tout ce à quoi nous assistons depuis deux ans qu'il est président.
la Fed, c'est un bouc émissaire idéal, Sébastien Jean, alors même que Jerome Powell, donc son président, a été nommé par Donald Trump.
Oui, ça y ressemble. Ce faisant, Donald Trump, par ses attaques, ses critiques à la Fed, brise ce qui était devenu une sorte de tabou. Hein. C'est-à-dire qu'on a fait le constat, dans les années 70 en particulier, qu'on souffrait du court-termisme de leur politique, des politiques qui avaient tendance à influencer les banques centrales et à les faire mener une politique monétaire qui était trop laxiste vis-à-vis de l'inflation. Et donc, il y a eu vraiment un mouvement qui a consisté à prôner une plus grande indépendance des banques centrales et ensuite à essayer de respecter ce cloisonnement. Si bien que la plupart des dirigeants aux États-Unis, mais aussi en Europe, ont relativement, plus ou moins, mais relativement respecté cette indépendance de la Banque centrale et ont évité de la critiquer très ouvertement. Donc là, je pense que ça fait partie, ça s'intègre assez bien à sa communication et au fait qu'il aime bien briser les tabous, montrer que lui, il dit ce qu'il pense et puis il n'y a pas d'interdit pour lui, etc. Donc c'est finalement, effectivement, assez commode pour lui. Puis ça permet de dire que si ça se passe mal ensuite, le succès c'était lui, mais l'échec ce sera d'autres.
Annick Cizel, oui, Donald Trump se donne le beau rôle.
Ah, il se donne le rôle du populisme complet, c'est-à-dire que c'est dans sa campagne de Drain the Swamp, c'est ce marécage de Washington, c'est ces superstructures de Washington qu'il attaque d'une manière rhétorique, puisque de toute façon il n'a pas grand pouvoir aujourd'hui sur la Fed, mais dans le même temps où il dérégule les banques privées et où il renvoie effectivement vers le businessman, j'allais dire de la rue, enfin le businessman concret au quotidien, le poids positif, entend-il, de sa politique. Donc c'est vraiment l'anti-Washington, l'anti-superstructure, l'anti-structure non gérable depuis, non gérable sur un plan humain. C'est-à-dire c'est cette technostructure, voilà, c'est le terme que je cherche, cette technostructure qu'il attaque, et ça c'est son discours depuis le départ, donc c'est de la rhétorique, mais ensuite avec un pouvoir de nuisance envers la Fed, qui est plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt la Fed qui tient dans sa main la réélection future en 2020 du président Trump, plutôt que le président Trump qui peut, à sa guise, faire bouger la politique de la Fed. Le pouvoir n'est pas chez lui, pour une fois.
Cette remontée des taux d'intérêt, en tout cas des impacts assez négatifs qu'on peut déjà commencer à voir, le fait que les investissements des entreprises sont moins importants que prévu par rapport à la bonne santé de l'économie. Et on le voit aussi dans l'automobile et l'immobilier qui sont déjà touchés, alors que ce sont des secteurs très importants pour la croissance, Sébastien Jean.
Oui, alors pour l'instant, on est sur une trajectoire qui est celle qui a été annoncée par la Fed. Il y a un guidage qui a été, pour l'instant, techniquement très bien maîtrisé. Donc, ils ont augmenté les taux d'intérêt le 26 septembre dernier. C'était prévu. Ils ont clairement dit que la trajectoire prévue, c'était une nouvelle augmentation en décembre. On reste sur quelque chose d'assez bien maîtrisé. Maintenant, le fait que les entreprises investissent moins, par exemple, quand il y a 3,7% de chômage, il faut voir aussi que si vous investissez beaucoup, il faut pouvoir embaucher derrière hein, pour, utiliser ces nouvelles capacités de production. Il y a toute l'incertitude créée par ce conflit commercial, hein, c'est-à-dire que tous les gens, toutes les entreprises qui sont exportatrices font face à des représailles ou des menaces de représailles et donc vont préférer souvent différer leurs projets d'investissement plutôt que les faire aujourd'hui, voir comment se matérialise, comment se concrétise cette incertitude. Donc, somme toute, c'est pas très étonnant qu'on soit dans un certain attentisme comme celui-là. Maintenant, la consommation des ménages continue à soutenir l'activité. La bourse, même si elle a un peu flanché, se maintient. Donc, on reste sur un équilibre qui est un équilibre de haute pression quand même pour l'économie américaine.
Alors, on voit que ces résultats sont à la fois bons et à la fois menacés peut-être dans les prochains mois. Et on verra dans un instant quel impact ils auront véritablement sur les élections de mi-mandat.
Rebellion against our leaders. World is not their playground. 'Cause I am, you are, we are all around. Triple A, Mr. Trump, that all the world is yours. If you believe that with guns, you will win, no, you lose. Our lives are not a game.
didn't you bought your place? Right now it's your body, it's the world's big race. Oh yeah, you want a wall, you seem to have vision and balls and money. Well, you look so strong. Are you the good and we're the bad?
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, on écoute le groupe Scratchophone Orchestra et leur titre simplement intitulé Trump. Et nous sommes donc avec Romain Huret, Annick Cizel et Sébastien Jean pour évoquer le rôle de la politique économique de Donald Trump dans les élections à venir. Et d'abord, je voudrais que l'on évoque un autre motif d'inquiétude de cette économie américaine, l'endettement des ménages qui totalisait 12 680 milliards de dollars à la veille de la crise des subprimes. Aujourd'hui, cet endettement dépasse les 13 000 milliards de dollars. Sébastien Jean, est-ce qu'il faut craindre de nouvelles bulles financières ?
Évidemment qu'il faut toujours avoir ce type de crainte, hein, de catastrophisme éclairé, disons. Surtout quand on voit l'endettement des ménages. Alors, je veux dire d'emblée, ce qu'il faut éviter, c'est de toujours craindre de voir se renouveler la crise précédente. C'est pas ça qui se passe en pratique. Malheureusement, ça serait trop simple si c'était ça. Donc, l'endettement des ménages.
L'histoire ne se répète jamais de la même façon.
Absolument. L'endettement des ménages, certes, c'est un indicateur et on sait que c'est un indicateur très sérieux, très alarmant. Le très forte valorisation de la bourse, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi quelque chose qui peut se retourner assez brutalement. Et puis l'autre point, c'est qu'il y a eu un mouvement de régulation du secteur bancaire, notamment la loi Dodd-Frank en 2010 aux États-Unis, pour essayer de se prémunir contre cette instabilité financière. Et là, l'administration Trump est en train de la détricoter, d'essayer de baisser ces régulations. Et donc ça fait le lit aussi de la fragilité financière à venir. Donc puis par ailleurs, il y a d'autres types d'endettement que ce qui a été le cas dans le passé. C'était beaucoup l'immobilier. Aujourd'hui, les crédits notamment des étudiants, hein, pour financer les études, les crédits automobiles aussi sont très importants. Il y a un certain nombre de craintes relatives aussi aux mouvements internationaux. Il y a une très grande abondance de liquidités. Beaucoup de ces liquidités en dollars sont allées se placer dans les entreprises des pays émergents. Ça peut être une source d'instabilité relativement importante, en particulier parce que souvent ces prêts ont été faits en dehors du secteur bancaire, ce qu'on appelle la banque de Londres, par un certain nombre de fonds divers et variés et qui sont moins régulés que les banques aussi.
Alors venons-en plus spécifiquement à ces élections de mi-mandat. Lors de ces élections, donc, les Américains vont renouveler 33 sénateurs et désigner les 435 membres de la Chambre des représentants. Romain Huret, quelle est aujourd'hui la place de l'économie dans les intentions de vote aux États-Unis ? Est-ce qu'on peut dire qu'elle a moins d'importance qu'auparavant ?
Elle est toujours importante. Hein. Dans les années 90, on dit... Une formule célèbre disait c'est l'économie imbécile. Hein,
la formule de James Carville, le conseiller de Bill Clinton.
Exactement, pour rappeler à tout bon candidat que s'il veut être élu, compte en priorité hein, les questions économiques et les questions économiques à l'intérieur. Les grandes perspectives géopolitiques et macroéconomiques jouent assez peu de rôle hein, dans l'élection immédiate. Et
donc, mais à ce moment-là, le bilan économique, pardon de vous interrompre, de Bush père était assez mauvais. Aujourd'hui, le fait que le bilan économique soit positif, est-ce que finalement ça a moins d'impact quand le bilan est bon ? À l'inverse, ça a beaucoup de conséquences quand le bilan est mauvais ?
Je pense que la présidence Trump a ceci d'exceptionnel qu'elle brouille toutes nos connaissances habituelles et nos prédictions habituelles. On voit bien que l'ampleur des sujets qui sont maniés à la Maison Blanche depuis 2 ans, une certaine forme de folie qui règne aussi dans le bâtiment, les mesures récentes sur l'immigration déplacent tous les jours les curseurs et les débats. L'économie n'est pas absente, hein, mais en tout cas, elle est alliée à d'autres préoccupations. La santé, on va en reparler, je crois, ou la question de l'immigration, hein, qui sont au cœur des préoccupations de beaucoup d'Américains, ou le rejet de Trump. Hein, le Parti démocrate a beaucoup joué la carte du rejet du président actuel.
Annick Cizel.
Oui, c'est tout à fait le paradoxe de ce que Sébastien Jean disait il y a 2 minutes, c'est-à-dire que le taux d'endettement des ménages ne continue à monter. Le taux d'endettement des jeunes, notamment, semble préempter les générations futures et anticiper des problèmes à venir. Et pour autant, un sondage fait par l'Institut Gallup le 17 septembre dernier disait que seulement 12% des sondés, 12%, tout parti confondu, percevaient l'économie américaine actuellement comme un problème. C'est-à-dire que, comme le dit très bien Romain Huret, bon, les problèmes macroéconomiques, l'homme de la rue ne les perçoit pas. Mais pour autant, cet endettement des ménages, cette dette qu'ils vivent au quotidien, cette non-reconstruction de l'Amérique individuelle, profonde. Je le résume généralement d'une manière lapidaire. Ceux qui ont tout perdu en 2008, ils ont toujours tout perdu aujourd'hui. Ça reste très très compliqué. Et pour autant, la perception, et c'est ce que disait Romain il y a un instant, la perception est différente. Comme s'il y avait une confiance, pas simplement au niveau de la base électorale de Trump, mais une confiance qui est renouvelée dans l'économie américaine, sans doute chez les démocrates, du fait de l'héritage d'Obama, et chez les républicains, très clairement, cette confiance dans le businessman qu'est Trump, dans celui qui dit la vérité sur l'économie, même si les experts savent que ça n'est pas toujours le cas, mais une espèce de foi dans l'embellie économique générale qui est un fait réel actuellement, qui permet à cette Amérique de regarder devant à nouveau, comme si la crise de 2008 était dépassée dans la psychologie des Américains aujourd'hui. Un dernier chiffre vraiment frappant, quand on connaît un tout petit peu les États-Unis aujourd'hui, 4% seulement des sondés citaient la pauvreté et les sans-abri comme étant un problème pour les élections aujourd'hui. Ça a disparu. L'invisibilité de la pauvreté telle que Michael Harrington en 1962 la mettait en exergue, cette invisibilité est revenue, en tout cas au niveau des sondages américains aujourd'hui. C'est vraiment frappant.
Le paradoxe, c'est peut-être aussi d'un côté cette dette publique qui a dépassé les 100% du PIB, et en même temps ce qui ressemble à une inconscience parmi les électeurs du fait que ce creusement du déficit risque d'entraîner dans les prochains mois des coupes claires dans les dépenses sociales, comme l'a d'ailleurs déclaré le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, au mois d'octobre. Donc on voit là qu'il y a une espèce de gap entre les deux, Romain Huret.
Oui, absolument, vous avez tout à fait raison. Mais une fois de plus, je crois que le brouillage des cartes, le brouillage médiatique permanent finit par perturber la rationalité d'explication des votes. Hein. Beaucoup d'hommes politiques, d'intellectuels, de commentateurs de la vie politique sont assez perplexes sur ce à quoi ils assistent en ce moment, depuis 15 jours, 3 semaines, avec l'accélération de fin de campagne et la multiplication des thèmes de campagne, la multiplication des provocations du côté de Donald Trump qui rend assez illisible la campagne en cours.
L'une des nouveautés de cette campagne, en tout cas vous l'avez dit, Romain Huret, c'est la place des questions liées à la santé dans les intentions de vote. Comment expliquer cette place croissante de la santé ?
Il y a deux éléments, je crois. L'un qu'on connaît bien en France, qui est le débat sur Obamacare, hein, la réforme de l'assurance santé mise en œuvre par le président Barack Obama et qui a été contestée par Trump. Et on a vu qu'il avait du mal à mettre un terme à ce qu'avait fait Barack Obama. Donc la question est ouverte et fait objet de débats aujourd'hui dans les États, puisque ce sont des élections locales, il faut bien le rappeler. Hein. Le deuxième point, qui est peut-être moins connu en France et par vos auditeurs, c'est la crise des opiacés, qui est une crise extrêmement grave en ce moment aux États-Unis. L'an dernier, le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, avait voulu faire un tour des États-Unis pour découvrir la vraie Amérique, hein, celle qui avait voté Trump. Et il en est revenu en disant qu'il avait été extrêmement frappé par l'ampleur de la crise, de cette crise.
À quoi est-elle due, cette crise des opiacés?
Ce sont des l'absorption d'antidouleurs. Hein, ce sont des antidouleurs qui ont été vendus par des compagnies pharmaceutiques et qui se sont révélés finalement plus que des antidouleurs. Hein, ce sont des drogues qui ont été consommées par les Américains et qui créent depuis une vingtaine d'années un nombre extraordinaire d'overdoses dans le pays, dans des États qui étaient peu habitués à connaître ce type d'overdoses. On en compte 72 000 en 2016, c'est énorme. Avec des états du centre, hein, des états de ce qu'on appelle l'intérieur, hein, comme le Kentucky ou la Virginie occidentale. On n'est pas à New York, hein, on n'est pas à Chicago ou à Los Angeles, dans des grandes villes où on est habitué aux problèmes de régulation de la drogue. On est dans des états qui connaissaient pas cela et qui connaissaient pas ces problèmes sanitaires et qui sont confrontés à une crise quotidienne avec des gens qui meurent d'overdose et qu'il faut soigner. Et donc cela explique pourquoi la santé est une préoccupation constante. Trump a proposé un plan, hein, on a fait voter un, mais a proposé de nouvelles mesures, et les républicains proposent des mesures pour venir en aide à ces victimes de la crise. Mais le Parti démocrate aussi a beaucoup joué cette carte et a promis de faire en sorte que la crise, cette crise épidémiologique, cesse.
Mais c'est une crise qu'il faut peut-être mettre en lien avec la hausse des suicides, notamment parmi les soldats de retour des guerres en Irak et en Afghanistan. Et alors, dans quelle mesure ces deux grandes crises sanitaires vont-elles peser dans la campagne ? Romain Huret, vous l'avez dit, Donald Trump a pris des mesures là où les démocrates, justement, avaient peut-être été absents. Alors comment aujourd'hui les démocrates essayent de rattraper leur positionnement ?
Il y a deux questions. La première, c'est vous évoquez la crise des suicides et ça renvoie à une étude très importante faite par deux économistes des inégalités de Princeton qui ont montré qu'il y avait une anomalie américaine depuis une trentaine d'années concernant les hommes et les femmes blancs âgés de 40 à 55 ans qui meurent de manière anormalement élevée au regard de ce qui se passe dans les autres pays occidentaux. Et depuis 30 ans, dans les pays occidentaux, c'est que cette catégorie d'âge voit son espérance de vie augmenter et son taux de mortalité baisser. Il est extrêmement bas en Suède, il a baissé depuis 30 ans en France grâce au progrès de la médecine, à une meilleure alimentation de cette catégorie d'âge qui est plus atteinte habituellement par les maladies cardiovasculaires ou d'autres problèmes de santé liés à l'âge. Aux États-Unis, depuis 30 ans, cela remonte. Et ces deux économistes disaient quelque chose de très intéressant. Ils disaient, attention, là, il y a peut-être un facteur explicatif du vote pour Trump et plus généralement du populisme. Un pays où cela remonte aussi, c'est l'Angleterre. On a le même phénomène. On voit que la courbe pour cette catégorie d'âge est en train de remonter. Donc, on a deux événements majeurs politiques où on a la démographie et l'économie des inégalités qui nous disent quelque chose d'intéressant. Attention, quelque chose se dérègle dans les comtés, dans les États américains. Et je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait qu'il y a des gens qui sont sans activité. Ce que montrent ces deux économistes, c'est que le niveau de diplôme et l'absence d'activité sont deux facteurs aggravants. Et que si vous n'avez pas un niveau de diplôme élevé et une activité professionnelle régulière, vous risquez de consommer des antidouleurs, de vous suicider, ou de mal manger, d'avoir des comportements qui peuvent conduire à une mort précoce. Et donc le Parti démocrate qui avait complètement raté en 2016 cet électorat...
Comment l'expliquer, notamment comment expliquer cette absence de préoccupation vis-à-vis de ces deux crises sanitaires dont
je pense que le Parti démocrate s'est beaucoup construit en aidant énormément la Silicon Valley. Il ne faut pas oublier cela, que la Silicon Valley est... l'enfant du Parti démocrate, des grands chefs politiques au niveau national, mais aussi au niveau local. Dans les États, le Parti démocrate a énormément soutenu ce secteur de l'économie, et donc a été très étroitement associé. Et on a vu Hillary Clinton extrêmement associée à la Silicon Valley. Les grandes entreprises de nouvelles technologies ont voté massivement Hillary Clinton. Mmh. On l'a vu avec sa fiche avec des stars d'Hollywood. Donc elle a soutenu... un pan de l'économie très dynamique et qu'il faut pas noircir le tableau, qui apporte une richesse considérable au pays, qui permet à une majorité d'Américains de vivre très confortablement, de profiter de la croissance. Mais à côté de ça, il y a une minorité qui joue un rôle très important pour les élections présidentielles à cause du système politique électoral. Il y a une prime, en quelque sorte, à cet électorat qui n'existe pas là. Là, localement, on n'aura pas la même prime, donc ça sera différent. Mais en tout cas, je pense que le Parti démocrate avait raté cet électorat et a essayé de rectifier le tir depuis quelques temps.
Sébastien Jean.
Oui, je pense que c'est effectivement une évolution très importante politiquement, économiquement aussi, qui reflète avant tout un sentiment de déclassement et de délaissement de classe moyenne, blanche d'ailleurs la plupart du temps. Et de façon assez frappante, effectivement, le Parti démocrate, pour qui ça a été historiquement une base électorale, l'a perdu de vue un peu d'une certaine façon. En tout cas, c'est le sentiment qu'ont eu beaucoup d'entre eux, je crois. Parce que d'une part, il était assez libéral, assez focalisé vers la défense de cette nouvelle économie, effectivement. Et d'autre part... il s'est décalé depuis la défense, disons, le clivage entre classe moyenne et classe aisée, disons, ce clivage un peu structurant, le ressort au fond du socialisme ou du communisme. Il s'est décalé vers une défense des minorités, une politique identitaire basée sur les défenses des minorités. Minorités en termes ethniques, en termes de genre aussi, hommes-femmes, en termes d'orientation sexuelle. Et c'est apparu comme quelque chose de beaucoup plus prioritaire dans son positionnement politique que la défense des classes moyennes et du rapport finalement entre le salariat et le capital. Et tout ça est évidemment intimement mêlé aussi à la désindustrialisation très rapide des États-Unis sur les 30-40 dernières années.
Et en même temps, depuis deux ans, est-ce que ces classes moyennes n'auraient pas des raisons de se sentir un peu laissées pour compte par Donald Trump ? Donald Trump qui a d'ailleurs annoncé une nouvelle base d'impôts de 10% sur les revenus moyens, donc ce qui laisse bien entendre qu'il a délaissé peut-être cette classe sociale.
Oui, je crois que cette annonce, elle procède aussi de la prise de conscience de la part de l'administration du fait que tout le monde a bien vu que la réforme fiscale l'an dernier, elle a profité essentiellement aux riches. Hein, le tiers des gains de cette réforme est allé aux 1% les plus aisés dans l'économie américaine. Donc c'est extraordinairement inégalitaire. Effectivement, la conscience du fait qu'ils n'avaient pas du tout répondu à ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je crois que pour une bonne partie de cette classe-là, la politique protectionniste a une portée symbolique très forte. Parce que ça apparaît comme une protection de la part de l'État par rapport justement à cette désindustrialisation et pour beaucoup d'entre eux à des gens qui ont appartenu aussi à un prolétariat industriel, à une classe de gens qui ont travaillé dans l'industrie à des postes de qualification intermédiaire, souvent relativement bien rémunérés et qui se sentent justement déclassés aujourd'hui. Et donc ça correspond à une protection qu'il valorise beaucoup, d'autant que c'est pas une protection qui est associée à plus d'États. Donc aux États-Unis, finalement, c'est une sorte de martingale. Je protège, mais je fais pas grossir l'État en même temps. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'auprès de ce public-là, cette politique protectionniste marche très bien.
Et puis l'une des Annick Cizel d'un mot.
Et juste un point, Larry Kudlow, qui est conseiller économique du président Trump, a déclaré hier qu'il n'y aurait pas d'augmentation du salaire minimum fédéral de manière à ne pas pénaliser les petits entrepreneurs, c'est-à-dire cette classe moyenne inférieure ou moyenne réellement, aux dépens des ouvriers. C'est-à-dire que là, il y a un choix électoral qui semble s'acter au sein, du Parti républicain pro-Trump, ce qui n'est pas forcément l'intégralité du Parti républicain, mais qui est d'abandonner au sein de son électorat la classe ouvrière pour vraiment se focaliser sur la classe moyenne, qui est aussi un moteur de relance de l'économie ou de perpétuation de cette croissance de l'économie.
Et puis l'une des grandes questions de ces élections, c'est l'abstention. Alors est-ce qu'il faut s'attendre à une plus grande mobilisation des électeurs et lesquels les élections de mi-mandat mobilisent en général 40% des électeurs seulement, Annick Cizel?
Alors il semblerait que cette fois-ci, je ne sais pas si les chiffres vont être battus et je me méfie terriblement des sondages américains comme autres d'ailleurs, mais en 2016 tout le monde se trompait, donc nous verrons ce qui sort des urnes le 6 novembre heure de Washington, ou heure de Los Angeles en l'occurrence. On peut s'attendre, vu la polarisation extrême de l'échiquier politique américain, que beaucoup d'Américains vont aller voter des deux côtés, républicains, démocrates, et peut-être surtout des indépendants. C'est vrai qu'on se focalise aujourd'hui beaucoup sur les républicains qui disent non à Trump et qui sont en train de glisser vers le Parti démocrate, sans doute ponctuellement, peut-être que pour cette élection, peut-être pour 2020 si Donald Trump se représente effectivement, mais qui disent non, c'est un vote qui n'est pas un vote d'adhésion au Parti démocrate, et il faudra bien se garder de l'interpréter comme tel, c'est-à-dire, attention, dans toute cette discussion économique, sans doute aussi pour ne pas tuer l'héritage des bonnes années d'Obama, le Parti démocrate se tait. Le Parti démocrate ne propose pas véritablement de programme clair. Ils sont en passe, a priori, de remporter la Chambre des représentants, la question étant sans doute sur auront-ils la majorité ou ne l'auront-ils pas. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer certains points de rencontre, notamment sur le renouvellement, la modernisation des infrastructures du pays, ce que Donald Trump voulait et ce que le patron du New York Times lui avait expliqué à une époque, que c'était un programme démocrate, c'était un New Deal à la Franklin Roosevelt, donc il ne pouvait pas le faire. Donc on peut imaginer des points de rencontre au-delà des élections, mais les démocrates pour l'instant ne jouent pas ce jeu-là, ne critique pas vraiment ouvertement la politique économique de Trump. Ce serait critiquer celle d'Obama. Puis je pense qu'ils auront sans doute d'autres attaques pour le coup sur sa gouvernance, qui est vraiment le point de préoccupation des Américains actuellement. Donc cette polarisation et cette agitation permanente que le président Trump entretient lui-même pour et donc contre sa gouvernance, vont prendre le devant de la scène au lendemain des élections. Ça va motiver beaucoup de monde à aller voter, du moins on peut le penser.
Un mot de conclusion, Sébastien Jean, la politique économique de Donald Trump est susceptible d'évoluer après les élections. Alors ça va dépendre évidemment des résultats, mais si contre toute attente les républicains gardent la majorité dans les deux chambres, est-ce qu'il faut quand même s'attendre à des changements, notamment vis-à-vis de l'Iran peut-être ?
Oui, je pense qu'on peut avoir des changements. On peut avoir des changements, y compris paradoxaux. Hein, c'est-à-dire que si Donald Trump perd la majorité à la Chambre des représentants, qu'il est attaqué, il va peut-être être donné dans la surenchère, disons, pour à la fois détourner l'attention et puis pour en même temps essayer de reprendre son électorat. Maintenant, ce qui est clair, c'est que jusqu'ici, Donald Trump a eu une gestion de l'économie qui était, bon, évidemment, complètement subordonnée aux politiques et très court-termiste. Mmh. Donc, je crois que la suite va dépendre aussi de savoir s'il y a ce fameux retournement de l'économie, sachant que justement, ayant épuisé toutes les cartouches alors que tout allait bien, le gouvernement n'aura plus de levier pour essayer d'assouplir l'impact de la prochaine récession. Donc, de cela dépendra beaucoup ce qui va se passer aussi dans les mois et années qui viennent, parce que c'est une grande inconnue.
Un grand merci à tous les trois de nous avoir éclairés sur la politique économique de Donald Trump. Romain Huret, je citerai un autre de vos ouvrages, Les conservateurs américains se mobilisent, paru il y a quelques années chez Autrement. Merci à vous également, Sébastien Jean, Annick Cizel. Sébastien Jean, je rappelle que le CEPI, dont vous êtes le directeur, a publié il y a peu L'économie mondiale en 2019. Il est 14h45 sur France Culture et c'est l'heure d'ajouter un ouvrage à notre bibliothèque idéale de l'écho. Que nous avons choisi aujourd'hui est un grand classique de la littérature économique. Il s'agit de Capitalisme et liberté de Milton Friedman, un ouvrage paru en 1962 et qui s'attaque de front au keynésianisme. Patrick Artus est avec nous pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste de Natixis, professeur associé à l'Université de Paris 1 et auteur entre autres de Euro par ici la sortie et de Et si les salariés se révoltaient, publié cette année chez Fayard. Alors pour commencer, dans quel contexte économique et politique cet ouvrage de Friedman, largement ignoré à sa sortie, est-il publié ?
Oui, vous avez raison de dire qu'il a été ignoré. Il n'y a que The Economist qui en a parlé. Mais évidemment, 10 ans après, il s'était vendu à, je crois, presque 500 000 exemplaires. Et donc, c'est quand même un livre qui a eu énormément de succès, mais avec un peu de décalage. 1962, d'abord, la pensée commune des économistes à cette époque, c'est une pensée post-keynésienne, hein, et pas du tout une pensée libérale. On est sorti de la guerre. Avant, on était sorti de la grande récession. Les années 50, c'est l'époque où les Hicks, Hansen, enfin les exégètes, si on peut dire ça, de Keynes, publient leurs travaux. Donc Friedman arrive avec une vue très différente de la vue consensuelle de l'époque, hein, qui est quand même toujours marquée par le rôle de l'État, des finances publiques, etc. On est au milieu de la guerre du Vietnam aussi, hein, donc aussi avec un rôle important de l'État, beaucoup de dépenses publiques, début de l'inflation. Enfin, donc c'est un contexte où il est assez seul, effectivement, à cette époque-là, pour défendre ce type d'idée.
Et alors, en quoi le keynésianisme, qui promeut notamment un plus grand interventionnisme de l'État, est-il à l'origine, selon Friedman, des problèmes du capitalisme ?
Alors, Friedman a une vue qui est une vue politique, on peut dire, puisque tout part dans son esprit et dans ce livre de sa définition de la démocratie. Friedman dit « La démocratie, c'est une organisation où il y a un État qui a des attributions parfaitement précises et qui sont parfaitement nécessaires. » Friedman ne dit pas qu'il ne faut pas d'État et il insiste sur le rôle de l'État dans l'éducation, dans le respect des lois et des contrats, dans la justice, la sécurité, enfin dans les choses régaliennes. Mais là, il dit il faut un État même fort. Hein. Mais il dit la démocratie, c'est un système où l'État ne déborde pas de ses attributions-là. C'est-à-dire ne vient pas, en dehors de ses attributions régaliennes, déborder sur la liberté des individus. Alors, ça, c'est vraiment le point de départ. Et la seconde partie du point de départ, et on arrive au keynésianisme après, c'est qu'il dit que les individus sont extrêmement différents les uns des autres. C'est-à-dire que le seul système économique compatible avec la liberté, donc avec la démocratie, c'est un système qui permet d'avoir des individus qui ont des goûts extrêmement différents les uns des autres, hein, des préférences, des goûts, des comportements, et que évidemment, à l'époque aussi, c'est l'Union soviétique hein, en face, hein, c'est 62. Hein. Évidemment, c'est une critique pas seulement du keynésianisme, c'est une critique du communisme hein, et du totalitarisme russe, en disant en face de nous, on a des systèmes qui nient la diversité des individus, puisqu'ils veulent que chaque individu ait exactement les mêmes besoins, les mêmes satisfactions, les mêmes consommations.
Donc l'État discrimine, mais le marché non.
Voilà. Alors le marché, chez Friedman, est la seule façon de faire travailler, vivre, échanger des individus très différents et dont il faut préserver la diversité. Puisqu'il dit, si on ne préserve pas la diversité des individus, alors on est dans un régime totalitaire et on n'est plus dans une démocratie. Et effectivement, dans la théorie du marché, reprise après par Debreu, hein, qui a le prix Nobel, hein, une dizaine d'années plus tard, et toute la théorie traditionnelle de la microéconomie, hein, de marché, ben évidemment, les individus sont extrêmement différents, mais ils peuvent échanger des biens et des services, hein, contre de la monnaie, en étant très différents, parce que le marché sait organiser ces échanges et définir le système de prix qui permet à ces individus très différents d'échanger. Hein. Donc ça, c'est très fondamental chez Friedman. Hein.
Et alors, pour rentrer un peu dans le détail de cette critique des théories de Keynes, pour Friedman, la hausse des dépenses publiques ne s'accompagne pas d'une hausse de la croissance. En cela, il conteste la théorie de l'effet multiplicateur.
Oui, alors absolument. Alors après, il y a plein de déclinaisons après de ces idées générales. Une des déclinaisons importantes, c'est que l'État ne doit pas faire de politique discrétionnaire de court terme. Alors, avec deux arguments différents, dans le cadre de la politique monétaire, il dit parce que la Banque centrale, quand elle essaie d'agir à court terme sur l'économie, se trompe tout le temps. Par exemple, les politiques restrictives au moment de la Grande Dépression au début des années 30. Et donc, ils savent pas faire ça. Et donc, il faut que la Banque centrale simplement maintienne une croissance régulière dans le long terme de la quantité de monnaie.
Pour lui, c'est d'ailleurs la principale raison de la grande crise des années 30.
Pour tout le monde, hein, il y a eu une erreur monétaire colossale au début des années 30, puisque la Banque centrale a contracté la quantité de monnaie, ce qui a fait baisser les prix et ce qui a fabriqué la grande déflation. Donc là, Friedman dit, ben voilà, mais il ne saurait pas plus le faire aujourd'hui. Hein, donc surtout, ne donnez pas aux banquiers centraux des politiques discrétionnaires qui nous maintiennent une croissance régulière de la quantité de monnaie, ce qui évitera l'inflation. Et tout en finançant convenablement l'économie. Et d'ailleurs, c'est après un livre très célèbre aussi de Friedman sur la quantité optimale de monnaie, aussi en permettant de financer une partie des dépenses publiques, hein, par la création monétaire. Et puis dans la politique budgétaire, alors là, il est simplement ricardien. Il dit, les individus sont parfaitement conscients que quand l'État fait un déficit public, il faudra plus tard le rembourser. Donc quand l'État dépense plus, les agents économiques privés dépensent moins et ça n'a pas d'effet sur la croissance.
Et c'est en cela que Friedman est considéré comme le père du courant monétariste qui prône le retrait de l'État en matière monétaire avec l'une de ses grandes propositions qui est de limiter la création monétaire à 3 à 5% par an pour limiter l'inflation.
Oui, alors c'est pas que pour limiter l'inflation, hein, dans la théorie optimale de la monnaie. Alors d'abord, il veut que ça soit constant, hein, pour éviter qu'il y ait des chocs, etc. Mais il veut aussi que ceci fournisse ce qu'on appelle du seigneuriage, c'est-à-dire en fait du financement monétaire des dépenses publiques. Hein. Et donc il regarde quelle est la croissance monétaire qui apporte le meilleur seigneuriage. Donc c'est à la fois un objectif d'inflation, mais aussi un objectif de financement de l'État par la création monétaire à un niveau optimal.
Et alors, Friedman nie également tout rôle social à l'entreprise pour des questions d'efficacité. Pour lui, c'est à l'État de jouer ce rôle, mais de façon limitée. Quel est alors le rôle qui est dévolu à l'entreprise ?
Alors, bah là, on est dans le modèle d'économie de marché le plus traditionnel. C'est très intéressant parce qu'on est en plein dans ce débat aujourd'hui, hein, sur le rôle social de l'entreprise. Et donc, on revient à Friedman. Bon, c'est pas très surprenant. Friedman dit « chacun son travail ». S'il y a des inégalités, de la pauvreté, l'État doit s'en occuper. Peut-être qu'on aurait une minute après pour dire comment il voit que l'État s'en occupe. Mais c'est pas aux entreprises à s'occuper de la pauvreté. Les entreprises, elles doivent fabriquer en étant les plus efficaces possibles. Donc elles doivent combiner du travail, du capital. Et à l'époque, on parlait pas beaucoup d'énergie, hein, de la façon la plus efficace possible. Et qu'elles ne s'occupent pas d'autre chose. Parce que si elles s'occupent d'autre chose, elles vont réduire leur efficacité et il y aura finalement moins de revenus. Par contre, il peut y avoir de la pauvreté. Alors, Friedman dit très clairement que un des rôles de l'État, c'est de lutter contre la pauvreté.
Contre l'extrême pauvreté.
Contre l'extrême pauvreté. Mais là, on retombe dans quelque chose qui est aussi assez intéressant, parce que c'est aussi un débat très présent. Il dit, l'État, à nouveau, diversité des goûts, des choix des individus, ce n'est pas à l'État à fournir des biens gratuits aux individus. Donc l'État n'a pas à dire, je donne aux pauvres l'éducation gratuite, la santé gratuite, un logement gratuit. Enfin, l'État doit faire ce qu'on appelle toujours aux États-Unis aujourd'hui un impôt négatif, c'est-à-dire doit compléter le revenu des plus pauvres par des transferts publics. Ce que nous, on appellerait le revenu d'activité, hein, ou la prime pour l'emploi. Et ensuite, les individus décideront de l'affectation de ce revenu. Donc, faut pas fournir de prestations en nature aux pauvres, il faut leur donner un complément de revenu.
Et pour revenir un instant à l'entreprise, Friedman balaye peut-être un peu vite la question des externalités négatives en économie.
C'est un point très faible dans le livre de Friedman. Il y a quelques points très faibles. L'existence d'externalités implique que l'État doit interférer avec le fonctionnement des marchés. Enfin, aujourd'hui, on sait tout ça et l'économie contemporaine ne travaille que sur ces questions, sur les problèmes d'asymétrie d'information, d'externalités, etc. Bon, c'est le climat, enfin toutes ces choses, hein, le bonus-malus sur les contrats de travail, chose dont on parle aujourd'hui. Donc Friedman, ça l'ennuie énormément, et donc on voit très bien que ça l'ennuie, et donc il essaie de minimiser la portée des externalités. Donc il dit, c'est tout petit, c'est pas très important, c'est un problème très secondaire de l'économie. Donc là, il a tort. Mais d'un autre côté, c'était il y a 55 ans, hein, et on parlait pas de CO2, mais il a tort, quoi. Mais évidemment, ça le gêne énormément, puisque ça permet à l'État de rentrer dans le fonctionnement des marchés, ce qu'il veut absolument éviter.
Patrick Artus, vous disiez que lorsque Capitalisme et Liberté est publié, Milton Friedman est encore assez minoritaire, mais ces théories vont ensuite être mises en application aux États-Unis par Reagan, au Royaume-Uni par Margaret Thatcher, ou encore au Chili avec les Chicago Boys, qui sont ces héritiers de l'école de Chicago fondée par Friedman.
Oui, absolument. Bah, dans les débuts des années 80, hein, Chicago Boys, je crois qu'ils étaient 50, hein, c'est des économistes chiliens qui vont avec Pinochet faire la réforme économique au Chili, en particulier les retraites par capitalisation, qui est aussi un point qu'il aborde dans le livre, la lutte contre les syndicats. Friedman est violemment hostile aux syndicats, et vous avez raison, on retrouve cette parenté chez Margaret Thatcher et chez Ronald Reagan, hein, parce qu'il considère que c'est un monopole. Hein. Pour lui, les syndicats, c'est un monopole, donc ça casse le fonctionnement normal du marché du travail, hein, où les individus doivent être dispersés, quoi, comme dans tout marché concurrentiel. Donc il est violemment en contre même l'existence des syndicats. Évidemment, ça se voit dans tous ceux qui ont suivi après l'école de Chicago.
Et alors, quelle est aujourd'hui, selon vous, Patrick Artis, la postérité de l'ouvrage de Friedman? Est-ce qu'il y a encore des Chicago Boys?
Alors, il y en a en Argentine aujourd'hui, avec Bolsonaro, visiblement, un Chicago Boy. Au Brésil, pardon, qu'est-ce que je dis? En Argentine aussi, est-ce que Macri clairement est aussi dans cette ligne de pensée, hein, avec suppression des subventions, lutte contre les monopoles, déréglementations, réduction des impôts, enfin, donc, et Bolsonaro, alors on va voir ce qu'il fait, mais a un programme qui est très largement dans cette ligne de pensée de l'école de Chicago, de Milton Friedman.
Comment expliquez-vous ce retour des ultra-libéraux?
Alors peut-être il y a un échec des autres, parce que finalement, quand même, jusqu'à une période extrêmement récente, la pensée dominante était une pensée assez interventionniste. Les banques centrales, regardez, ont fait des choses extrêmement violentes en intervenant dans l'économie. Les budgets sont extrêmement interventionnistes. Et peut-être qu'on s'aperçoit que cet interventionnisme n'a pas l'efficacité qu'on pouvait en attendre.
Pour conclure, Patrick Artus, qu'est-ce qu'être libéral, selon Milton Friedman? Comment est-ce que lui-même se définit?
Mais je reviens au point du début qui me paraît le plus intéressant. C'est finalement cette réflexion sur qu'est-ce que c'est que le totalitarisme. C'est-à-dire finalement, le totalitarisme, c'est un système qui nie la diversité des individus. C'est quand même une réflexion extrêmement intéressante, hein. Et puis, à quoi doit servir l'État? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'État doit faire? Quelle est la bonne frontière de l'État? Hein, et à nouveau, il ne dit pas qu'il ne faut pas d'État. Il a même beaucoup de paragraphes où il dit l'éducation, c'est extraordinairement important, au moins une éducation de base. Après, il veut que les étudiants à l'université payent leurs études en disant, de toute façon, s'ils font des études, ils gagneront plus leur vie que les autres, donc c'est normal qu'ils payent. Cette réflexion sur la frontière de l'État, je crois qu'elle est extrêmement importante aujourd'hui.
Finalement, Patrick Artus, cet ouvrage, c'est plus une profession de foi politique qu'un manuel d'économie?
Alors lui, il dit que c'est un livre de philosophie. Hein, il dit pas que c'est un livre d'économie. Il dit après j'ai écrit plein de trucs sur l'économie, sur l'histoire monétaire, sur la quantité de monnaie optimale. Il dit j'ai fait plein d'économies après. C'est un livre où je définis ce que c'est que la démocratie du point de vue d'un économiste. Dans l'idée de Friedman lui-même, c'est un livre sur les fondements. C'est pas un livre d'économie.
Merci beaucoup, Patrick Artus. Je rappelle votre dernier livre, Et si les salariés se révoltaient, écrit avec Marie-Paul Virard et publié chez Fayard. Un grand merci. Entendez-vous l'écho, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réécouter cette émission et notre série consacrée à la valeur du corps sur franceculture.fr et en podcast. La semaine prochaine, on s'intéresse à l'innovation et à ses limites. Excellent week-end et à lundi.